Les traducteurs qui se sont attelés à la rude tâche de produire une version française d'une œuvre aussi originale que celle de Sauli Barguyen sont presque 30. Entre élèves scientifiques et littéraires, depuis la publication du vol de Bagualdino Cuervo par un physicien, si ma mémoire est bonne, dans une anthologie consacrée aux frontières, jusqu'à la traduction de Porca Miseria, traduite par Mathilde Ferrez, mais encore inédite, en passant par Toute la Terre et du sang dans le cône sud, le fascisme est une hydre, dans une édition bilingue des presses universitaires de Lyon. Il est vrai que j'ai animé cet atelier depuis 1995, mais n'importe lequel de leurs traducteurs de ces œuvres pourrait parler aussi bien des premières publications que moi, qui préfère me tenir sur le côté qu'au centre, en général. Je parlerai donc des premières traductions et du projet Ibargoyen en général, et je céderai la parole à Alice et Émilie, dans cet ordre par ma droite, que nous remercions de parler aujourd'hui du sang dans le côte sud, le fascisme est une hydre, toujours avec le sous-titre qui est aussi important, après avoir écrit quelques pages sur ce travail que nous avons mené tous les trois pour l'édition française, donc qui figure dans le livre. Je dois aussi à Fernando Ainsa, qui a disparu lui aussi au début de l'année, de m'avoir fait découvrir l'œuvre de Sauli Barguyen. Fernando était un lecteur absolument universel, il avait l'air de toujours avoir tout lu, y compris ce qui n'allait pas paraître, et donc il me l'a présenté comme quelque chose d'original, d'innovant, et franchement ça correspondait exactement à ce que nous voulions faire. Donc à terme, l'ATH se propose d'en faire connaître plusieurs aspects, témoignages, fiction, et la journée d'aujourd'hui dans notre esprit à tous les trois et peut-être à d'autres sera déterminant. Pourquoi pas poésie? Parce que moi, en fait, je viens à la poésie de Saoul par la prose. Et en général, c'est le phénomène inverse. Il est connu comme poète. Ah bon, il a écrit aussi de la prose, donc voyons voir. Mais quand on commence par traduire la prose, on se rend compte qu'on a affaire à un poète. Donc fatalement, on est obligé d'y venir. La question initiale est complexe, de savoir comment traduire une œuvre combative escrita con intention de sangre, dure jusqu'à ce qu'il en cuise au lecteur, compréhensive aussi, et poétique, étrange, même pour d'autres hispanophones que ceux du Rio de la Plata. Le traducteur doit donc garder trace ou mémoire de ce que le texte lui a dit et fait à la première lecture, intellectuellement, émotionnellement, charnellement. Il faut penser au public nouveau qui lira la traduction, comme l'auteur a pensé à son public et à son contexte, différent par définition. Et aussitôt, le traducteur a à penser contre lui-même, contre soi-même, pour élargir cette première perception de l'œuvre. Un traducteur est un lecteur comme un autre, possédant une culture limitée, et surtout ne recouvrant que partiellement celle de l'auteur. D'où ma question sur ces innombrables lectures dans toutes les directions culturelles. Bien entendu, l'auteur lui-même inscrit son œuvre dans un contexte, il peut revendiquer des sources, des réminiscences, mais une fois publié, il faut aussi dire que l'œuvre lui échappe, et ses paroles ne doivent pas entraver non plus la liberté du traducteur. Deuxièmement, la présence aujourd'hui de chercheurs et de citoyens engagés dans des luttes décrites par l'auteur me dispense aussi un peu de dresser un tableau plus objectif du contexte uruguayen, puisqu'ils le font de manière bien plus rigoureuse. Et de ce point de vue, j'ajouterai à ce que j'ai préparé une idée centrale dans le passage de témoin avec Isabelle, c'est que maintenant, l'atelier de traduction se trouve vraiment dans un centre de recherche. Moi, je ne suis pas un chercheur, et je pense que ce qu'Isabelle se prépare à faire, c'est vraiment monter une marche très importante dans ce que fait l'atelier, et dans les liens qu'elle établira certainement avec les activités de recherche, ce que nous n'avons pas cherché à faire. La démythification de la représentation de l'Uruguay remonte pour moi aux années 70, lorsque je lisais dans la revue barcelonaise Bicicleta que tous les avocats uruguayens étaient en prison ou en exil. Et notre état émotionnel s'amplifiait lorsque nous voyons un film de Fernando Solanas et Octavio Gettino, La Hora de los Hornos, qui ranimait encore le débat sur la nécessité ou pas de la violence dans les luttes sociales et politiques. Il est clair que la position de Saoul, là, peut lui valoir des animosités, voire des incompréhensions. En proposant aux élèves de l'ATH de traduire Ibargoyen, j'avais réveillé des raisons plus militantes en moi de traduire, renforcées plus tard par la précision de certains travaux. Et je citerai, pour illustrer la déminification dont je parle, l'ouvrage de 2005 d'Eduardo Rey Tristán, La izquierda revolucionaria uruguaya 1955-1973. Donc là, les dates importent, et où il dresse en particulier un bilan de l'activisme des partis et des groupes. J'emprunterai là quelques exemples, non pas pour dire qu'ils sont particulièrement importants comme tels, mais plutôt comme symbole du bien fondé de l'entreprise de témoignage d'Ibargoyen, qui fait remonter bien avant le gouvernement civico-militaire l'écroulement de l'édifice démocratique. Premièrement, celui des Medidas Prontas de Seguridad d'octobre 67, de juin 68, de juin 69, permettant de, je cite, « réprimer les grèves et arrêts de travail dans les services publics et privés ». Fin de citation. En mars 69, la dissolution du Partido Obrero Revolucionario d'obédience trotskiste. Deuxièmement, le chiffre bilan des fermetures d'organes de presse et moyens de communication entre décembre 67 et juin 73. 162 fermetures d'éditions jugées impropres, 2 fermetures de journaux pour un temps indéfini et 9 fermetures définitives. Troisièmement, le 1er août 70, un communiqué du ministère de l'Intérieur, je cite, « autorizando a abrir fuego sin previo aviso sobre cualquier persona sorprendida en actitud sospechosa. » Et c'est exactement cela que décrit une scène du Vuelo de Bagaldino Cuervo, et la première scène pratiquement de Sangre en el Sur, ce qui est arrivé au narrateur en fait, c'est-à-dire Saoul. Traduire, c'est d'abord intégrer ce contexte. Publier une traduction, c'est intégrer, avec la complicité d'un éditeur, les presses universitaires de Lyon en l'occurrence, et de plusieurs éditeurs, une introduction, en comprenant qu'elle conditionne la réception par un autre public d'une réalité pour lui peu ou moins tangible. Alors, Sangre en el Sur, El fascismo es uno solo, a été longuement mûri par des demi-fictions antérieures, inspiré d'une histoire familiale de l'auteur, dont l'action principale et ses conséquences courent grosso modo sur un siècle, de 1870 à 1960. Au lieu de céder à la tentation de l'autofiction, Ibargoyen a écrit en particulier deux romans, que sont Noche de Espadas en 1987 et Toda la Tierra en 2000, dans lesquels il organise une polyphonie de voix, c'est-à-dire dans les termes de Bakhtine, je cite, « une pluralité de conscience indépendante et distincte ». Ces voix complémentaires, parfois opposées, permettent de circonvenir dans le premier des deux livres une certaine vérité autour du suicide de son grand-père maternel, militaire de carrière sous le gouvernement de Lorenzo Latorre. Et cette vérité serait que la modernisation prétendue de l'économie ne se fait qu'au prix du sacrifice du peuple et des minorités ethniques et de la trahison des idéaux égalitaires d'Artigas. Une cause profonde de la violence au XXe siècle, donc. Le second roman, Toda la Tierra, évoque les violences à la frontière entre l'Uruguay et le Brésil et la constitution d'une fazenda et de la fortune familiale qu'elle favorise. Puis l'éclatement de cette famille à la suite de l'assassinat du petit-fils dans un contexte de comportements seigneuriaux, de corruption de la police et de différents trafics, mais principalement celui du bétail. Le compilateur des divers témoignages et documents affirme sa présence avec une maîtrise accrue, puisqu'il se pose non seulement les questions de leur recevabilité et de leur fiabilité factuelle, mais aussi celle des filtres déformants liés à la position des témoins dans la société, à la mémoire et à l'expression verbale frontalière qui en est le support de transmission. Troisième partie de mon exposé, comme je suis censé parler de traduction au sens où on l'entend généralement, le sens étroit de la dernière opération, celle du passage d'une langue à l'autre, et que nous avons traduit dans la Tierra, je dirais qu'il serait réducteur de voir là un roman en portugnole. La question du portugnole est souvent montée, non pas en épingle, mais elle a une forte prégnance dans la critique qui est faite. Et donc, je dirais qu'il serait réducteur de voir là un roman en portugnole et que nous n'avons pas eu à inventer un franc portugnole qui n'aurait ni réalité ni vraisemblance d'aucune sorte. Ibargoyen lui-même déclarait en 2004 Con relación al lenguaje, contiene numerosos regionalismos o localismos propios o derivados del habla de esa zona de la frontera Uruguay-Brasil, pero también tiene muchas invenciones y neologismos que surgieron de mi larga relación práctica y comunicacional con ese producto lingüístico llamado portuñol. Añado que esta mistura idiomática tiene mucho más tradición histórica que literaria. El español como idioma oficial fue por décadas menos real que declarativo. La situación de estos últimos años, Mercosur mediante, está provocando curiosamente una ratificación de las muestras lingüísticas y dialectales que eran apenas aceptadas o soslayadas tanto por el discurso oficial como por la lengua culta de la intelectualidad. Por mi lado, toda la tierra se apega a los planteamientos iniciales de mi escritura narrativa, no solo en el sentido de una escritura fronteriza, de un fronterizo cultural, sino en cuanto a presentarse como un producto ajeno a la macrocefalia del país y a la sacralización postmoderna de la lengua culta. Alors ici, je voudrais, à titre d'exemple, vous lire un passage dialogué où le traducteur, c'est-à-dire l'atelier, s'est surtout préoccupé. Enfin là, il s'agissait peut-être d'un traducteur ayant travaillé seul. S'est surtout préoccupé de rendre vraisemblablement quotidien des écarts, des créations et des emprunts. Et l'idée, c'est ça en fait, hein, de faire comme si c'était tout était normalisé. Alors la scène se passe dans un café où le petit-fils rencontre des Brésiliens. Il ne resta pas la moindre trace de tous ces coloriages géographiés sur cette table. Juanito les effaça sans même en effleurer le dos, car de cartes, si je ne m'abuse, il n'y en a qu'une dans cette fabula. Alors il y a une carte qui parle et qui dit ce qui lui arrive. C'est un bout de papier qui a droit aussi à la parole et qui raconte ce qu'on lui fait dans le dos en modifiant la frontière, en faisant passer le trait de l'autre côté du Nil parce qu'elle est stratégique, enfin des choses comme ça. Déjà, il faisait mine de se redresser, songeant à la rosse pour la chasse qui l'attendait dehors, lorsque deux voix impromptues s'en mêlèrent pour lui déclarer « Ben trapiche de bedegué, mon un ami !» Et eux, là, en quelle foutue langue ils parlent, en avaniense? C'est bien ce que pensa Juanito, interlocuteur nu-tête et prodigue en 2000 livres sonnantes et en 1000 reis trébuchants, en compensation du tout bu et du non moins repu. Il y avait même un sou bien rond pour la serveuse rondouillarde et métissée. Il dépocha donc, voilà tout, et orienta son regard tandis qu'il achevait la verticalisation de son squelette ragaillardi. Ces messieurs me parlent? Eh bien, oui, c'est à vous, monsieur, que nous falons. Colloquer avec vous, c'est ainsi que nous voulons. On dirait qu'il y a comme des monostiches, hein, c'est tellement rythmé, tellement. Juan Bautista Pavia da Cunha de Canguceiro, pour vous servir. Necrosio Floral da Cunha Guerra, de Rosa del Sur. Un patronyme en commun, semble-t-il. Tomasio Albarniz Terra, d'ici même, de Rivamento. Donc à cette même table ou vous en préférez une autre? Très bien ainsi, j'en accrédite. Toi, qu'en dis-tu? Oui, mira bien, c'est d'azur. Globalement, nous avons décidé d'une méthode semi-collaborative, alternant le travail en atelier sur certains chapitres ou passages, le travail solitaire sur d'autres chapitres, pour faire en sorte qu'une voix composante de la polyphonie soit, si possible, l'objet exclusif du travail d'un seul traducteur, avec des créations, des néologismes propres, tandis que le fond lexical partagé serait harmonisé et même objet d'un glossaire ajouté au texte. On trouve donc des formulations étranges qui côtoient des adoptions pures et simples du guarani, Cunhataí, Acaranda, Nyengatu, Nyemongheta, pour dire mademoiselle, Jacaranda, beau parleur, conversation, du tarasco, huarache, du quechua, ojota, du brésilien, seis maria. même lorsqu'une traduction était possible. On aurait aussi bien pu dire sandales, concessions de terre, ou des adoptions évitables lorsque la traduction occulterait un trait de civilisation, parce que ça, c'est aussi un danger. Par exemple, on trouve jaguarete, et jaguarete en guarani, ça veut dire jaguar véritable. Donc, ça n'est pas le jaguar. Et jaguar véritable, c'est une invention du guarani au moment où les Espagnols sont arrivés et où ils ont employé leurs chiens pour chasser les esclaves marrons. Par conséquent, à ce moment-là, il s'est mis à y avoir un faux jaguar et un vrai jaguar. Donc, traduire jaguarete par jaguar, c'est perdre en quelque sorte la mémoire de ce que ça peut évoquer peut-être un Paraguayen ou un Uruguayen. Des emprunts parcimonieux au créole des Antilles, ça paraît loin, pour rendre sensible le substrat linguistique colonial. Chabon, bidim, bigidim, avant-vent, Adam, empile, pour dire noir, énorme, patatras, jadis, à l'intérieur, beaucoup. Ou à ancien guaranisme pétuné, emprunt colonial du XVIIe, que nous ressuscitons un peu. L'invention d'un nouveau pronom, vous, marquant l'hésitation entre les valeurs du vos et du vosé, qui n'est ni tu, ni usted, ni doctor, ni ou senior. Ce processus de soupesage constant des solutions n'est pas assimilable à une recherche de l'oralité. Il y a vraiment création phonétique et poétique saoulienne, et d'autre part, la présence des histoires que l'on entend sur les marchés brésiliens, dans les veillées antillaises, relève d'un art particulier des maîtres de la parole. Donc oralité, oui, mais pas n'importe laquelle. C'est vraiment des maîtres dont on essaie de traduire la maîtrise. Donc nous avons même osé un yécric, vous savez, c'est ce que dit le conteur antillais quand il est à la veillée. Les gens sont là, ils sont attentifs, et lui, il veut savoir si vraiment l'auditoire lui répond. Donc normalement, on répond yécrac. Et après, le maître de la parole continue. Alors on a osé ça un peu loin du contexte, donc auquel l'auditoire est supposé répondre, puisque l'auteur a conscience de ça, et il fait en sorte que le narrateur s'adresse toujours à quelqu'un qui est supposément là et qui pourrait lui répondre, même si on ne l'entend pas. Ibargoyen donne pleinement droit de citer à cet art de raconter au quotidien, qui est perçu comme un trait essentiel de la personne. Donc si nous avons réussi à faire sentir une espèce de vibration de la langue un peu indéfinie, en même temps que la collecte de témoignages sur une histoire rancognée ou niée par la culture officielle, nous avons réussi à faire avancer l'idée que toute l'œuvre frontalière d'Ibargoyen construit une poétique qui fait contrepoids au système dominant. L'hypothèse de travail d'un traducteur n'est pas celle d'un chercheur, mais elle se nourrit des travaux des universitaires et des critiques. Pour l'instant, modestement, je postule que la pulsion créatrice profonde d'Ibargoyen part d'un questionnement sur ses origines familiales et son expérience frontalière, questionnement fortement teinté par le sentiment d'injustice remontant au fondement de la nation moderne. Son grand-père voulait défendre la cause des opprimés et a été suicidé par le pouvoir en place, comme d'autres ont été plus tard, disparus et exilés. Cette enquête externe se double d'une étude de l'affouillement de sa propre conscience par le fascisme montant et par la conviction que son expérience de résistant est partageable sans frontières. D'où l'idée que, je pense moi, qu'il y a un itinéraire mental aussi chez Ibargoyen pour dire « mais ma propre catharsis, elle a quelque chose qui me dépasse très largement, je me dois de dire un peu cette vérité publiquement. » Donc voilà, notre travail de traduction dans un premier aspect.
Donc, nous voudrions d'abord commencer par des remerciements. Merci de nous avoir invités aujourd'hui. Merci à Marilu Suarez d'avoir partagé ses souvenirs émouvants tout à l'heure avec nous. Et merci à Philippe de nous avoir fait découvrir l'œuvre. Tu disais tout à l'heure que Fernando Ainsa t'a introduit à l'œuvre de Saoul et à ton tour, tu as passé le flambeau en nous introduisant à l'œuvre de Saoul.
Oui, donc merci à tout le monde. Alors, Sangre en el Sur a été écrit environ en 4 mois par Saoul Ibargoyen. Nous avons mis près de 5 ans à le traduire. Saoul lui-même s'en est étonné à plusieurs reprises. Les raisons de ce temps de traduction sont pratiques. D'abord, le texte a été traduit dans un premier temps par une équipe d'étudiantes de l'ENS de Lyon, supervisée par Philippe, au cours de réunions hebdomadaires. C'est comme ça que fonctionne l'atelier de traduction. Chaque semaine, l'une d'entre nous soumettait un passage à un groupe, au groupe qui en discutait, afin d'élaborer collectivement une version définitive. Dans un second temps de traduction, Alice, Philippe et moi-même avons travaillé de manière plus autonome et échangé à distance. Donc les traductions de l'atelier de traduction hispanique sont souvent des projets à très long terme, souvent interrompus ou en tout cas bousculés par les impératifs liés à la scolarité des étudiants et des étudiantes, agrégation, départ à l'étranger, etc. Mais en ce qui concerne particulièrement Sangre en el Sur, le travail s'est vu allongé par le fait que, à l'issue de plusieurs années de traduction collaborative, décision a été prise de tout recommencer depuis le début. La première partie du roman nous heurtait en effet à la relecture par son hétérogénéité, par le manque d'équilibre. Nous avons dû corriger, nous avons dû revenir sur notre travail de traduction pour finalement trouver une langue, mettre au point une langue de traduction suffisamment souple pour rendre compte des richesses stylistiques que Saoul, en quelques mois seulement, avait fait apparaître dans la sienne. La traduction est donc parue en 2018 du vivant de l'auteur, qui, depuis le Mexique, a suivi notre épopée de traducteur amateur. Sans doute était-il assez perplexe face au temps que nous mettions à traduire son œuvre, mais il a suivi notre projet avec confiance, avec bienveillance, et nous a apporté son aide à plusieurs reprises. Par l'intermédiaire de Philippe, nous avons pu lui soumettre des questions, les interrogations que soulevait son texte, et nous avons pu bénéficier de son aide, de ses explications et de ses éclaircissements.
Et aujourd'hui, plutôt que d'évoquer notre travail de façon un peu lointaine, nous avons choisi d'appuyer notre propos sur un passage précis de Sangre en el Sur. Partir de ce passage nous permettra en fait d'illustrer notre démarche et puis de rendre aussi peut-être pour vous plus concrètes nos problématiques de traduction. Nous avons choisi un extrait tiré des monologues intérieurs du narrateur, les monologues intérieurs en italique qui se trouvent vers le début de l'œuvre, des pages 114 à 117. Cet extrait, que nous allons vous lire dans quelques instants, est, vous le verrez, particulièrement métatextuel. Nous l'avons choisi car il est une fenêtre intéressante sur notre travail. Le choix d'un passage très métatextuel peut faire un peu l'effet peut-être d'un poncif et pourrait sembler inopportun, dans la mesure où il nous oblige à reléguer au second rang la question du témoignage historique que nous livre ici l'auteur. Cependant, les questions du témoignage et de la violence de l'histoire ont déjà été ce matin abordées, d'où notre volonté de diversifier peut-être un petit peu les éclairages sur l'œuvre de Saúl Ibargoyen. De plus, c'est un passage dans lequel le narrateur commente sa parole et réfléchit à son témoignage, à l'image finalement de ce que nous faisons aujourd'hui ici même. Nous verrons que ce passage concentre plusieurs problématiques de traduction que nous avons rencontrées tout au long de la traduction de ce livre. Et dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à ce qu'implique le fait de traduire une œuvre proprement métatextuelle. Mais tout d'abord, voici une lecture à deux voix du texte original et de sa traduction. Pardon, page 114 jusqu'à 117. Qué raro es este contestadero mío.
Ça fait un répertoire de réponses plutôt bizarre, tout ça.
Siento que entre los dientes se revuelven parlamentos no usados, como si uno fuera el actor del soneto de Shakespeare, aquel que, demudado y torpe, suelta frases que corresponden a otros personajes de un drama sin título, y al final habla por todos y por nadie.
Entre mes dents, je sens affleurer des tirades neuves, comme si j'étais cet acteur d'un sonnet de Shakespeare qui, irrité et novice, lance des répliques volées aux personnages d'un drame sans titre, et parle finalement pour tous et pour personne.
La verdad es que ando medio perdido entre tanta palabra cabra desmandada, como escribió mi amigo el poeta Juancito Cuna.
La vérité, c'est que je suis un peu paumée au milieu de toutes ces paroles. Elle me perd, ma propre langue chèvre insoumise, comme l'a écrit mon ami poète Juan Cuna.
¿Qué pensaría el viejo Freud? ¿Por qué se pronunciara Freud sobre este asunto?
Qu'en penserait ce bon vieux Freud? Je n'ai jamais réussi à prononcer Freud, on se le demande.
Uno se lanza a mover la que no tiene huesos como si remara en un torrente de muchas aguas distintas. No solo de la impaciente saliva propia, iban creciendo las frases, las mezcolanzas de la memoria.
Je me décide à remuer la bien pendue, comme pour ramer entre ces courants contraires où se perd ma salive impatiente. Et voilà qu'enflent les phrases, que s'amplifie le micmac mémoriel.
Sin embargo, hay algo que nos defiende, y eso es un desorden, un cierto desmadre, un poco de caos.
Toutefois, quelque chose me protège, un désordre, un brin de bordel, un peu de chaos.
Que este señorón tan bien compuesto, tan educado, aunque algo agresivo, tan de traje de finas telas y lentes al aire, tan pelambrera de yupi y zapatos de piel de bicho inédito, tan insistente con esta defensa que dispongo, no me va a joder del todo.
Ça me sert de rempart, et il aura beau insister, il ne pourra pas tout me foutre en l'air, ce monsieur si bien mis, si bien éduqué, quoique un peu agressif, tout en costume haut de gamme et lunettes sans monture, coiffure de yuppie et chaussures en peau de licorne.
Bueno, otra vez al mentidero verdadero.
Allez, je retourne à mon mentir vrai.
¿Qué es la verdad? Preguntó Pilatos. Y el chucho no dijo nada.
Qu'est-ce que la vérité? Demanda Ponce Pilate. Et J.C. ne pit pas mot.
Ce passage, vous le voyez, est représentatif d'un des aspects stylistiques qui, pour nous, fut très marquant dans l'expérience de traduction. Il s'agit du mélange constant des registres. Saoul passant constamment du très vulgaire au très soutenu, du comique au tragique, du prosaïque au poétique. On note ainsi la familiarité avec laquelle le narrateur évoque el viejo Freud, el chucho, son agressivité envers le journaliste et sa pelambrera de yupi, l'emploi du verbe joder, si fréquent dans l'ouvrage. Dans le même temps, on ne peut qu'être sensible au travail rythmique et phonétique, ou encore au choix des images grâce auxquelles Saoul évoque l'activité de la mémoire. Van creciendo las frases, las mezcolanzas de la memoria. En fait, ce brassage stylistique a lieu à tous les niveaux de l'œuvre, qui est organisé par le tissage de deux prises de parole fictionnelles. Les passages en romain sont adressés aux journalistes et sont le lieu de discours théoriques et politiques, souvent polémiques, tandis que les monologues intérieurs, représentés en italique dans le roman, sont le lieu d'une remémoration plus intime. Entre ces deux modes de parole, il existe des jeux de réponses, d'échos, des zones d'hésitation même, qui nous ont fait nous interroger lors de la traduction sur l'interprétation à faire de tel ou tel passage. Il nous est arrivé de nous demander est-ce que ce passage est finalement un passage de l'interview ou un passage du monologue intérieur. Et comme nous le disait Saoul lui-même dans un mail, lorsque nous l'interrogions sur un de ses points de lecture justement, le narrateur du roman parfois duda entre el decir y el no decir, entre la mémoire des faits et celle du cœur. Et tout se passe comme si, en fait, la phrase de Saoul elle-même miniaturisait sur le plan microstructural ce jeu d'échange, cette bigarrure qui fait la structure même de l'œuvre. Un des principaux défis posés par le texte, et pour lequel le travail en équipe fut réellement une force, était donc justement de disposer d'un spectre de traduction suffisamment large pour retrouver en français les constantes variations de registres à l'œuvre en espagnol. En a découlé un défi connexe, celui de traduire les créations linguistiques de l'auteur. La langue espagnole est, par certains aspects, plus plastique que le français et se prête davantage à la création de néologismes. C'est le cas dès le début du passage avec le mot « contestadero ». Il est formé sur le verbe « contestar » avec le suffixe nominal « dero ». Le suffixe indique qu'il s'agit du lieu dans lequel on peut « contestar », donc répondre. Ce mot n'est pas attesté par le dictionnaire de la Real Academia Española, mais il se comprend très aisément en espagnol et ne détonne pas plus que ça sous la plume du narrateur. La création d'un néologisme en français aurait été trop marquée, étrange pour le lecteur français. Et nous avons donc choisi l'expression « répertoire de réponses » que vous pouvez voir là, car c'est une expression à la fois peu courante en français et en même temps facilement compréhensible. Cette solution nous a en fait permis de conserver l'inventivité linguistique de Saoul Ibarcoyen, mais de basculer de l'inventivité au sein d'un mot à l'inventivité au sein d'une expression, afin de ne pas tordre pour autant la langue française. Le narrateur le dit lui-même à propos de sa propre langue, c'est une cabra desmandada, et nous pouvons étendre cette expression imagée de Juan Cunha à la langue de l'auteur lui-même. Tantôt rétive, tantôt facétieuse, cette langue chèvre insoumise ne s'est pas toujours facilement laissée dompter. Mais nous avons eu à cœur de tenir la bride suffisamment lâche pour qu'elle ne perde pas trop de sa fougue lors du passage vers le français. On voit également dans cet extrait, avec la référence à Shakespeare, à Juan Cunha ou encore à Freud, que Saoul Ibarcoyen ne manque pas de convoquer de nombreux auteurs qu'il cite, interpelle et questionne tour à tour, et c'est ce que tu faisais remarquer ce matin, Philippe. Ces références qui émaillent son œuvre la rendent riche et dense, et nous nous sommes souvent prêtés, avec le soutien indéfectible de Philippe, au jeu des énigmes pour retrouver à qui appartient telle ou telle expression que l'auteur cite sans donner la référence, ou qui se cache derrière les noms qui l'égrènent au fil des pages. On discerne ainsi le lien intime qui lie Saoul Ibarcoyen à ses auteurs qui l'ont précédé, de quelques années ou de plusieurs siècles. Derrière une citation ou un diminutif affectif, comme le Juancito Cunha du texte original, se dressent des compagnons littéraires amis de chair ou de papier. Or, cette richesse intellectuelle nous a posé de nouveaux défis. Dans certains cas, Saoul cite des œuvres hispanophones non traduites en français, donc il a fallu nous-mêmes proposer une traduction. Comme c'est le cas ici avec la Lengua Cabra Desmandada. Dans d'autres cas, il cite des textes qui ont déjà une traduction française officielle, que nous avons donc cherché et incorporé à notre traduction. Le cas de la référence à Shakespeare que j'ai mentionné précédemment est intéressant, puisqu'il nous a obligés à faire des allers-retours entre trois langues différentes. On a d'abord dû retrouver le sonnet en question, qui n'était bien évidemment pas numéroté dans le texte de Saoul et Bergoyen. Puis, nous avons dû lire le texte en anglais pour trouver les mots correspondants dans le texte original, et enfin comparer toutes les traductions possibles déjà existantes de Shakespeare, celle de François Victor Hugo, celle de Charles Garnier et celle d'Yves Bonnefoy, pour garder dans nos traductions celle qui nous semblait coller le mieux au passage. Nous nous sommes tellement prises au jeu de l'intertextualité que nous n'avons pas résisté à rajouter une strate à notre tour dans notre traduction. En effet, l'expression finale, l'une des expressions finales, mentidero verdadero, de la fin du passage, ne comporte pas en tant que telle de référence intertextuelle, puisque le mentidero est à l'époque classique simplement un lieu où on se réunit pour bavarder. Mais la référence à Aragon s'est imposée d'elle-même. Comme si nous avions été à notre tour prises dans l'euphorie de cette œuvre bibliothèque qui est aussi Sangre en el Sur.
Donc si nous avons choisi ce passage à vous commenter aujourd'hui, c'est donc bien qu'il représente de nombreux enjeux de traduction qui se sont présentés à nous lors de notre travail. Mais c'est aussi, et c'est ce qui frappe à la lecture de cet extrait, à cause de son caractère très, très métatextuel, très réflexif, le narrateur semble ici donc, se confondre avec l'auteur lui-même, même si Saoul ne se nomme jamais lui-même dans Sangre en el Sur, lorsqu'il réfléchit à la façon dont les phrases lui viennent, à la manière dont les mots se posent sur ses souvenirs. Alors qu'une forme d'agacement semble gagner le narrateur à l'égard de son intervieweur anonyme, les passages en italique ne manquent pas de créer une sorte de complicité entre le narrateur et le lecteur, seul dépositaire de ce qui n'est pas dit tout haut. In fine, le lecteur est aussi le dépositaire d'une réflexion de l'auteur sur sa propre entreprise. La langue chèvre en soumise, c'est celle d'un romancier et poète frontalier prolifique. Le brin de bordel qui lui sert de rempart, c'est la structure décousue de son témoignage, et son mentir vrai, c'est l'autofiction qu'il nous livre sans concession. Sous ses abords bruts, ce témoignage est aussi une œuvre qui se réfléchit en même temps qu'elle s'écrit. Et traduire une œuvre réflexive, pour nous, c'était avoir l'opportunité d'observer et d'analyser la démarche de l'auteur par-dessus son épaule lorsqu'il procède à sa propre analyse. En somme, le travail que nous avons fourni avec cette traduction est un prolongement en mineur du travail de l'auteur lui-même, à bien des égards. Si l'auteur s'est donné pour mission d'être la voix de ceux qui n'ont plus de voix, nous avons à notre tour tendu l'oreille vers ces voix pour leur permettre d'être écoutées dans une autre langue. Si nous avons cherché à transmettre fidèlement la violence de la langue de l'auteur, la complexité du contexte historique, la richesse de sa bibliothèque mentale, c'est parce que l'auteur lui-même montre et signale de façon répétée à quel point il a à cœur de transmettre. Et ce fut un hommage de traduire une œuvre du vivant de son auteur, devenant nous-mêmes par cette traduction, à notre tour, témoins et passeurs de cette trace indélébile. Nous dirons pour finir que les nombreux passages méta que l'on trouve dans l'œuvre et que celui-ci exemplifie ont insufflé à notre travail de traduction une certaine liberté. En effet, Saoul réfléchit souvent, notamment dans les passages de monologue intérieur, à ce que l'on pourrait appeler l'autonomie de la langue vis-à-vis de l'auteur. En atteste ici la représentation du sujet, du jeu, qui se dit paumé au milieu de son propre flot de paroles, perdu par sa langue insoumise. Dans la prose de Saoul, les phrases sont souvent construites par des procédés de juxtaposition, de relances successives. Elles sont souvent bouleversées rythmiquement et syntaxiquement par des figures d'interruption, des figures de correction, qui représentent une parole s'écoulant d'une manière incontrôlable, d'une manière qui échappe au contrôle de l'auteur. La métaphore que l'on trouve ici des courants contraires ou encore de la salive impatiente fait écho à une autre métaphore que l'on trouve souvent dans Sangre en el Sur et qui est celle du flot des souvenirs, flot incontrôlable, on trouve l'expression. L'activité de remémoration et celle de la transmission écrite du souvenir se font donc dans un même mouvement, dans un même élan qui semble traverser l'auteur davantage que relever d'un geste maîtrisé. Notre rôle n'est pas de dire dans quelle mesure cette représentation de l'activité d'écriture correspond fidèlement ou non à la pratique de Saoul. Ça, ce serait sans doute à Marie-Lous de nous le révéler. Il s'agit simplement de pointer le fait que l'œuvre invite elle-même à mettre de côté la question des intentions d'auteur, du contrôle, pour accorder toute sa valeur à la dimension créatrice de l'interprétation elle-même. Saoul lui-même nous y invitait avec une grande bienveillance lorsque, interrogé dans un mail sur le sens à donner à un passage, il nous répondait « se admite más de una interpretación, el traductor tiene libertad en eso. Merci beaucoup. Merci.